Marie Nostrum sur Radio Zinzinex.
Des mondes antiques aux migrants d'aujourd'hui.
L'actualité, la culture, les sciences sociales.
Dans l'ère méditerranéenne.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans notre magazine Marie Nostrum. C'est le numéro
105
aujourd'hui. Une fois de plus, donc, je reçois une chercheuse dans l'ère méditerranéenne, comme d'habitude. Donc, on navigue en quelque sorte dans l'ère méditerranéenne avec nos spécialistes qui nous donnent plein d'informations sur ce qui s'y passe et sur ce qui s'y est passé. Alors, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui porte sur un moment particulier des mouvements migratoires, le transit. C'est un moment quelquefois fugace, passager, ou quelquefois donc plus long, plus durable, et en tout cas toujours marqué par des rencontres, par des aventures, entre guillemets, bien sûr, qui peuvent être tragiques, qui peuvent être secourables, des périodes difficiles où il faut résister, où il faut s'accommoder. Et c'est ça l'intérêt du travail de notre invité. Notre invité, pour en parler, c'est Céline Reignard, donc que nous connaissons, parce qu'elle est déjà venue à deux reprises. Et donc, bonjour Céline.
Bonjour.
Donc, vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine et vous avez votre habilitation à diriger des recherches à Aix-Marseille Université dans un des laboratoires de l'AMSH dont vous êtes directrice adjointe. Ce laboratoire Télème. Votre thèse a été publiée en 2009 sous le titre « Je cherche et je vais le trouver, Marseille, la violente criminalité, industrialisation et société ». 1851-1914, et votre habilitation a donné lieu à une publication qui s'appelle « En transit, les Syriens à Beyrouth, Marseille, Le Havre, New York, 1880-1914 ». Cet ouvrage, il est publié aux éditions Anamosa, donc il vient d'être publié il y a un mois, petit mois même, hein. Et donc vous pouvez d'ores et déjà le trouver en librairie, il est partout, et s'il n'y est pas, il faut le réclamer. Donc, Céline, vous travaillez depuis longtemps sur l'immigration, et là, vous êtes intéressée à ce petit morceau dans le temps de la migration, ce petit morceau de temps de transit, qui quelquefois d'ailleurs est long, avec dans votre travail cette particularité à la fois étonnante et passionnante, et c'est vraiment ce que j'en ai ressenti, d'évoquer beaucoup d'histoires d'hommes et de femmes qui forment la trame de votre étude, et j'ai trouvé ça, c'est une approche qui est très très passionnante à lire. Alors on va donc passer maintenant, j'allais dire aux choses sérieuses, mais c'est toujours sérieux, Marie Nostrum. Et donc, on va interroger notre invité sur, justement, ce phénomène du transit pour les Syriens, parce qu'il fallait bien catégoriser et trouver matière à faire ce travail, de Beyrouth à New York, donc dans les dates que j'ai déjà données, 1880-1914. Alors, la première question que j'ai très envie de vous poser, en quoi le transit dans la migration présente-t-il un moment particulier ?
Merci de votre invitation, tout d'abord. C'est un plaisir de me retrouver ici. Je voudrais juste préciser avant toute chose que le livre porte sur ceux qu'on appelle à l'époque des Syriens, mais qui sont en réalité originaires de la Grande Syrie, qui est une région qui est une dépendance de l'Empire Ottoman, qui dépend de l'Empire Ottoman à cette époque-là. Et si on doit parler avec des termes d'aujourd'hui, on utiliserait plutôt le terme de Libanais, puisqu'ils sont essentiellement originaires de la région de Beyrouth et du Mont Liban. Alors ensuite, pour répondre à votre question, pourquoi le transit, finalement ? Alors il y a toujours une réponse assez classique des historiens qui vous diront « parce que ça n'avait pas été fait ». C'est une boutade, mais ça n'en est pas tout à fait une quand même, c'est-à-dire il y a des raisons pour lesquelles ça n'avait pas été fait. Essentiellement parce que les historiens, mais pas uniquement d'ailleurs, les sociologues, les géographes, les anthropologues, etc., se sont beaucoup intéressés soit au départ, soit aux arrivées, c'est-à-dire qu'est-ce que la migration fait à la société de départ et comment on s'intègre dans une société d'arrivée. Or, depuis quelques années, on a beaucoup travaillé sur les phénomènes de mobilité, de circulation, sur les voyages aussi. Et puis, il y a toute l'actualité tragique aujourd'hui des frontières et des gens qui sont bloqués aux frontières. Et comme les sciences sociales ne sont pas imperméables, évidemment, à cette actualité, on s'est mis à réfléchir aussi sur ces entre-deux. Qu'est-ce qui se passe entre le départ et l'arrivée? Ben, les voyages et donc les transits. Et c'est comme ça que j'ai été amenée à m'intéresser à ce sujet. Alors sur Marseille, plus précisément, ça fait longtemps que je travaille sur Marseille, comme vous l'avez rappelé, sur les migrations à Marseille. Et il m'a semblé extrêmement intéressant, pertinent, stimulant de retourner le modèle marseillais, qui est un modèle d'intégration, et c'est pas faux hein, de le dire, mais d'essayer de le compléter en voyant en quoi Marseille était aussi une ville de départ, une ville d'ouverture vers l'Atlantique, vers l'océan Indien, vers la Méditerranée, et donc une ville de transit, de voir un petit peu ce qui se passait dans cette phase-là.
Oui, c'était une vision intéressante, d'ailleurs, de rendre à Marseille ce point d'appui pour une dispersion des gens à partir de Marseille, et d'aller jusque dans l'océan Atlantique. On n'a pas trop l'habitude d'en parler comme
oui,
ça.
Oui, on n'a pas l'habitude, voilà. Mais je crois que ça apporte énormément à la perspective sur la ville, parce qu'en réalité, ça n'est pas qu'une ville d'arrivée. C'est aussi une ville d'espoir, une ville de départ. Aujourd'hui, c'est une ville dont il est parfois difficile de repartir. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués à Marseille dans des situations de demande d'asile, etc., de rétention. Mais à l'époque à laquelle je travaille, la belle époque, la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, c'est vraiment un très grand port. Et comme tous les grands ports, c'est un carrefour. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, je pense, est absent de l'historiographie. Alors, c'est pas tout à fait vrai de dire ça, parce qu'en réalité, Émile Témim l'avait dit. Dans Migrance, dans la grande somme d'Émile Témim sur l'histoire des migrations à Marseille, il y a des pages pas très longues, mais avec des fulgurances, et il a vu les mêmes archives que moi, sur le fait que Marseille est une ville de départ, de transit, y compris pour les Syriens. Moi, en fait, je n'ai fait que suivre quelques petites pistes comme ça, esquissées par Émile Témim il y a 30 ans maintenant.
Oui. Ah, que n'a-t-il pas dit, Émile Témim, sur Marseille?
On peut lui rendre hommage.
Cet hommage, absolument. Alors, vous avez donc fait le choix des Syriens. Il y a Marseille, et puis il y a les points de donc départ, Beyrouth, bien sûr, Marseille, Le Havre, et puis New York. Et donc, c'est une espèce de jeu de piste, et qui a un sens. Quand même.
Ouais, ça a un sens, parce que étudier un port de transit en monographie ne va rien dire du transit en soi. Ça va dire des choses du transit sur Marseille. Donc là, il y a un aspect qui est proprement scientifique, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'apporte la comparaison à l'étude de cas? Et la comparaison apporte, je pense, beaucoup. Donc, à travers le jeu de pistes, le dédale un peu que j'ai écrit, puisque le livre n'est pas du tout construit comme une étude de quatre cas les uns après les autres. Le livre est construit sans arrêt en esquissant des liens entre ces différents terrains d'études. L'idée était justement d'essayer de monter en généralité par la comparaison, et dans les très grandes différences qu'on perçoit dans ces quatre villes, de mettre en évidence des points communs, des différences, qui est le classique d'une étude comparative, mais qui permettent d'avoir un discours sur ce que c'est que le transit migratoire. Puisque c'est ce que j'ai voulu écrire, c'est un essai historique sur ce que c'est que le transit migratoire qui parle à aujourd'hui. J'ai voulu essayer de faire comprendre des choses et de faire passer un message sur la différence qui existe entre aujourd'hui, où les transits, pour une bonne part des gens, sont beaucoup entravés, très compliqués, et ce qui se passait à l'époque, qui était très différent, et faire réfléchir aussi le lecteur sur cette fausse évidence du fait qu'il faille absolument fermer les frontières, se barricader et ne pas laisser les gens passer.
C'est très méritant d'avoir suivi cette piste. On a bien besoin de la suivre, de l'évoquer, j'allais dire presque tous les jours, et de l'évoquer encore et l'évoquer encore. Parce que c'est un des problèmes majeurs que rencontrent ces migrants.
Mais je crois qu'on a besoin de réfléchir sur des choses qui nous sont présentées comme des vérités imparables. J'espère qu'on peut servir un petit peu à ça.
C'est aussi le rôle de l'historien. Moi, je pense, je considère que les enseignants, les chercheurs ont toujours ce rôle d'essayer de remettre les choses à leur place. Alors, cet angle d'attaque des quatre lieux différents, mais avec des points communs, bien sûr, qui permettent justement de voir ce qu'est en soi ce transit, s'accompagne donc dans votre travail d'un examen d'un certain nombre de problèmes qui sont posés à ces migrants en transit. Vous en avez choisi trois. le logement, le contrôle. Dieu sait si le contrôle aujourd'hui, on est dans l'actualité souvent. Et puis d'échapper aux escrocs, ce qui également est assez fréquent, on peut dire. Donc, je vais vous poser ces trois questions.
Peut-être avant, on peut rappeler un peu le contexte, c'est-à-dire pourquoi ils sont partis et pourquoi ces quatre villes. Donc, c'est une population d'abord majoritairement de confession chrétienne, beaucoup de chrétiens maronites, qui sont aussi très majoritairement des paysans de la montagne du Mont Liban, qui partent massivement à partir des années 1880 de leur région d'origine. 300 000 personnes quand même, qui quittent l'Empire ottoman en une trentaine d'années, pour se disperser à la surface de la Terre, mais quand même avec des tropismes assez forts, vers l'Amérique latine et vers l'Amérique du Nord. Ils sont partis pour des raisons essentiellement économiques, chercher fortune, et beaucoup ont travaillé dans le colportage, mais pas uniquement, beaucoup ont travaillé aussi dans les usines ou ont travaillé la terre. Et c'est une première diaspora libanaise, donc une première très grande émigration qui a la particularité d'être très circulante. Donc beaucoup de ces gens, à peu près une petite moitié d'entre eux, ont fait des allers-retours avec leur région d'origine. Ce qui a également produit des conséquences très importantes sur la société de départ et une modernisation, entre autres, de cette société et un afflux d'argent aussi dans cette société libanaise, syro-libanaise de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. C'est pour ça, peut-être, les auditeurs se posaient la question que j'ai choisi ces quatre ports, parce qu'en fait, ce sont quatre ports qu'ils traversent ou qu'ils peuvent traverser. Beyrouth, c'est le principal port de départ. Marseille, parce qu'il n'y a pas de ligne directe entre l'Empire ottoman et évidemment l'outre-Atlantique. Il faut passer par un port méditerranéen. Et Marseille capte une très grande partie de ses flux en raison des liens étroits qui existent avec cette région de la Méditerranée et de l'existence des compagnies maritimes, notamment des messageries maritimes qu'ils utilisent. Le Havre, parce que pour repartir vers l'Atlantique, beaucoup d'entre eux traversent la France pour gagner le port normand, pour arriver plus vite en Amérique du Nord, même si aussi une bonne partie d'entre eux partaient de Marseille vers l'Amérique latine. Et New York, parce que c'est le principal port d'arrivée aux États-Unis, et qu'il me semblait, mais ça c'était une idée que j'avais depuis longtemps, qu'il existe, en dépit des apparences un peu paradoxales, il existe en fait beaucoup de points communs entre l'histoire de Marseille et l'histoire de New York, deux villes un peu mythiques qui sont considérées comme les portes d'entrée du pays, les portes de la Golden Door et la porte de l'Orient. Donc il existe beaucoup de parallèles entre ces deux villes qui sont très intéressantes à étudier en parallèle. Voilà, et donc cette émigration s'est interrompue avec la Première Guerre mondiale, mais là où elle a vraiment périclité, on peut dire que c'est la fin de cette première grande vague migratoire, c'est les années 1920, avec l'introduction de quotas qui restreignent les migrations outre-Atlantique, et avec aussi l'instauration du mandat français sur le Liban. Donc il y a un changement de contexte à ce moment-là qui amène à la fin de cette première période, mais dont il faut quand même rappeler que c'est la première grande vague d'émigration libanaise dans le monde, qui a donné lieu à leur présence aussi en Afrique, hein, qui est assez connue, notamment en Afrique de l'Ouest, au Moyen-Orient évidemment, jusqu'en Australie, au Mexique, en Amérique latine. Donc cette dispersion de cette population qui en fait une population éminemment transnationale à la surface du globe dès la Première Guerre mondiale.
Et puis une implantation importante à Marseille aussi.
Tout à fait.
Les Libanais, en particulier dans la navigation, dans les compagnies maritimes, etc., sont quand même très nombreux et ça date à peu près de cette période-là. Les
oui, alors ça date souvent de l'entre-deux-guerres, mais voilà. Et donc effectivement, en tout cas, c'était pour permettre de retracer un petit peu ce contexte, pour avoir des éléments de compréhension. Et pourquoi j'ai commencé à travailler sur cette population ? Parce qu'elle est... Elle est omniprésente dans les archives du port de Marseille, dans les archives de la police du port. On la rencontre sans arrêt.
Et comme vous avez travaillé sur la police ?
Et comme j'ai travaillé sur la police, voilà. Quand on cherche des choses, on trouve d'autres choses. C'est ce qu'on appelle la sérendipité. Donc on trouve d'autres choses et c'est ça qui nous amène toujours vers des terrains nouveaux.
Et au Havre aussi, il y a une diaspora libanaise, non ?
Non, très peu. Au Havre, il y a quelques... Turcs, comme ils sont désignés dans les recensements, assez peu. Le Havre est une ville qui n'est que traversée par les Syro-Libanais ou les Syriens. du fait de la configuration du transit. Il y a au Havre une interconnexion entre le train et le départ en bateau qui est très bien faite, quelques heures d'attente, à peine plus, et une configuration des lieux qui fait que les Syriens s'attardent très peu dans la ville du Havre, et donc ils utilisent les services de l'hôtellerie privée, mais dans des dimensions très très modestes. La compagnie générale transatlantique, qui est une des plus grandes compagnies maritimes de cette époque-là, qui opère la traversée Le Havre-New York, les achemine en train à des accords avec les compagnies de chemin de fer, et puis les achemine en bateau, tout en ayant, en 1910, ouvert un hôtel pour les loger, les contrôler, désinfecter leurs bagages. Donc tout est extrêmement bien organisé au Havre, ce qui fait que Le Havre est une ville finalement relativement contournée. Enfin, le transit y est extrêmement bien canalisé à la fin du 19e siècle.
Oui, économiquement, la Compagnie Générale Transatlantique a bien cadré les choses pour justement un transit rapide.
Tout
à fait. Ça permet d'en accueillir plus et de
capter les flux, gagner toujours plus d'argent.
Tout à fait. Mmh. Ouais. Y compris ces hôtels dont on aura peut-être l'occasion de parler à propos du logement. Donc voilà. Et donc au niveau des encore une question là, plus générale. Au niveau des sources, vous avez eu des difficultés, des problèmes, ça a été compliqué. Peut-être pas pour Marseille, parce que là, vous connaissez les archives.
Alors, une des difficultés, c'est la différence. Quand on veut faire une étude comparative, c'est la différence de quantité de sources et de nature de sources entre les différents lieux qu'on prend en considération. Moi, j'ai fait une étude comparative qui n'est absolument pas systématique. C'est-à-dire que je n'ai pas évoqué sur chaque sujet systématiquement les quatre ports. Je me suis laissé guider par les sources que j'avais. Alors, sur Marseille, évidemment, il y a les archives pléthoriques de la police du port, du contrôle. Ce qui pose un problème, d'ailleurs, c'est qu'on ne sait que ce qui se passe mal, puisqu'on a les archives de la police. Donc, tout ce qui se passe bien, en fait, on ne l'a pas. Je me suis tout de suite heurté à un problème, c'est qu'il n'existait pas d'archives similaires pour les autres villes. Très peu. Pour Le Havre, oui, mais pour Beyrouth et New York, absolument pas. Les archives de Beyrouth, les archives ottomanes, sont inaccessibles pour des chercheurs français, ou quasiment. Donc j'ai utilisé, pour pallier ce problème, j'ai utilisé des archives consulaires françaises, à Nantes et à la Courneuve. Et puis, pour New York, j'ai utilisé beaucoup de recensements, beaucoup de sources de presse, beaucoup de littérature grise, des rapports, beaucoup, de la commission de l'immigration. Et enfin, la cerise sur le gâteau, ce qui me permet de faire une étude, comme vous l'avez dit, sur ces hommes et ces femmes, et j'ai vraiment essayé de faire une étude au plus près de ceux sur lesquels je travaillais, c'est la présence de nombreuses photographies, c'est l'existence surtout d'autobiographies, publiées ou non, de correspondances et d'une enquête ethnographique qui a été menée par une ethnographe américaine d'origine syrienne dans les années 1960-1970 aux États-Unis, elle-même étant enfant, la première génération, ses parents sont des immigrés syriens aux États-Unis, Alix Hanaf, qui a laissé un fonds absolument extraordinaire de 80 entretiens menés avec des gens qui aujourd'hui sont décédés mais qui à l'époque étaient vivants, qui racontaient leur voyage, et elle a eu la bonne idée de poser la question du transit dans les villes traversées.
Elle vous a entendu au-delà du temps.
Le jour où j'ai découvert ça, je peux vous dire que j'ai eu un bonheur d'archives incroyable. Donc, comme j'avais des financements qui m'ont permis de faire cette recherche, j'étais à Washington, j'ai vu ses entretiens, les photographies, les énormes archives familiales qu'elle a collectées, ce qui a permis de donner cette dimension humaine au livre. En plus des autres fonds autobiographiques qui sont conservés par ailleurs, qui existent, hein, il y en a d'autres, mais disons que celui-ci est vraiment exceptionnel.
Oui, donc vous avez repris un certain nombre de ces photos dans la publication, là. C'est très intéressant, ces photos qui se...
Tout à fait. Alors, il y a plusieurs types de photos, hein. Il y a des photos de police de Marseille, donc il y a beaucoup de portraits anthropométriques des escrocs. Il y a des photos de famille, il y a des photos de presse, pas mal, dont une sur Marseille qui est quand même très intéressante à mon avis. Les Syriens qui nettoient leurs affaires sur l'île du Frioul. Il y a quelques photos de Beyrouth, puisqu'on a la chance qu'il y ait les frères, la famille Bonfils, qui a laissé un fonds photographique quand même très important sur Beyrouth. Donc L'aspect photographique m'a énormément intéressée. J'ai essayé, dans ce qui était au départ le mémoire inédit de l'habilitation, de faire vraiment en sorte que les photographies soient de vraies sources, et les cartes postales aussi. De les commenter comme des sources, de les utiliser comme des sources, de déceler des indices, d'essayer d'avoir un discours scientifique sur ces images, et pas uniquement qu'elles soient là à titre illustratif.
Et vous avez eu accès facilement aux archives Bonfils, là, aux archives photos ?
Alors, elles proviennent essentiellement d'un livre qui s'appelle « Beyrouth photographié » ou quelque chose comme ça. Et le travail de demande de droit a été fait par l'éditrice.
D'accord. Ouais.
Mais pas difficilement.
D'accord. On va faire une pause musicale. Alors, ces pauses musicales, elles sont extraites d'un festival de l'imaginaire qui s'est déroulé en 2015. Donc il y a une succession d'intervenants. Eh bien, on va passer la première, je crois, c'est Wade Boisson. Maintenant, on va donc passer à ce questionnement sur ce que trouvent ces migrants dans leur transit. Et la première des choses importantes, c'est quand même se loger, trouver un endroit pour se placer, pour se poser.
Oui, alors en fait, là, vous faites allusion à la construction du livre. Donc, le livre, il est construit comme 5 point de vue, comme 5 fois la même scène, qui est la scène du transit, mais filmée sous des angles différents. J'ai pensé à ça quand j'ai conçu ce livre. Je me suis dit, c'est comme un film d'art et d'essai où tu filmerais 5 fois la même chose, mais pas avec le même angle. Alors, effectivement, le premier angle, c'est se loger. Enfin, c'est plus que se loger, c'est habiter. C'est-à-dire la manière dont ils interagissent avec l'espace de la ville qu'ils traversent. Parce que ce qui est très frappant dans cette période, c'est que même si les transports ont fait des progrès considérables, il reste toujours énormément de temps, en général, dans les transits. Nous, on a l'habitude, un train, c'est une heure, un avion, c'est quelques heures. Bon, eux, ils restent parfois plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour l'attente d'un autre départ. Pour des raisons multiples, soit ils n'ont pas le billet, soit le bateau n'est pas là, ou les plannings des bateaux ne sont pas calés, notamment à Marseille. Donc bref, ils doivent attendre. Alors ça déjà, c'est quelque chose de très particulier qui fait qu'ils doivent rester dans une ville qu'ils ne connaissent pas forcément et se loger, se nourrir, évidemment vivre hein, tout simplement en attendant le nouveau bateau. Alors, du coup, ça donne lieu à des pistes de recherche extrêmement intéressantes, c'est-à-dire où est-ce qu'ils se logent et comment ils font. Alors, où est-ce qu'ils se logent ? Il y a plein de possibilités. Ils peuvent se loger chez des compatriotes. Ils peuvent se loger dans des hôtels meublés ou des sortes de pensions. Voilà. Ils peuvent se loger dans de l'hôtellerie plus traditionnelle, dans de l'hôtellerie pas du tout traditionnelle pour le coup, mais spécifiquement réservée aux migrants. Ou alors, ils peuvent être logés carrément, et c'est le cas notamment aux États-Unis à partir des années 1890, par l'État, hein, par le gouvernement fédéral, à Ellis Island. Hein, il y a des gens qui logent, tous ceux qui sont en observation. Donc il y a toutes sortes de possibilités. Et ce qui m'a intéressé, moi, c'est de voir que la façon dont les gens vont se loger dépend étroitement de la façon dont est organisé le transit dans la ville. En gros, il y a deux paramètres, enfin, il y a trois paramètres. L'argent, de combien d'argent il dispose. L'existence d'une communauté syrienne dans la ville, ou pas. Et troisième paramètre, très important, la configuration des lieux. C'est-à-dire comment est organisé le transit. Est-ce qu'il y a une interconnexion rail, bateau, enfin port, chemin de fer, etc. Et en fonction de ces trois paramètres, de ces trois curseurs, on obtient des situations complètement différentes. Donc, pour le dire vite, au Havre et à New York, à partir de l'ouverture d'Ellis Island en 1892, un transit très bien organisé, donc qui contourne en partie le centre-ville, mais pas totalement quand même dans le cas de New York, où il y a un quartier syrien qui voit beaucoup de migrants logés par des compatriotes à domicile. À Marseille et à Beyrouth, dans une certaine mesure, un transit pas très bien organisé, voire pas du tout organisé, en partie clandestin pour Beyrouth. L'Empire ottoman interdit les départs jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et donc, une prolifération d'hôtels plus ou moins miteux qui offrent des services pas très clairs à toute une population qui en a besoin. Et un secteur économique qui se développe énormément, notamment à Marseille, où ça prend des proportions très très importantes dans les années 1910. Donc derrière la problématique du logement, il y a tout ça. Il y a l'argent, il y a comment est construite une ville et comment est organisé le transit. Et il y a les différents types de dispositifs qui sont mis en œuvre par les États ou pas. Donc c'est extrêmement intéressant à comparer.
Oui, et puis la façon donc d'appréhender l'endroit où on est logé,
oui,
c'est pas toujours évident. Et pour un certain nombre d'entre eux, c'est peut-être reconstituer un peu ce qu'ils ont laissé. Quand ça commence à durer,
Ça commence à durer, alors on voit ce phénomène très intéressant. Soit quand ils logent chez des compatriotes, par exemple à New York, donc on déroule un matelas par terre pour celui qui arrive. Donc il y a une sorte de familiarité quand même culturelle, linguistique, souvent familiale d'ailleurs. On le perçoit aussi à Marseille dans certains hôtels qui sont tenus par des Syriens eux-mêmes, où il y a donc la langue qui est parlée, on peut cuisiner dans sa chambre. C'est pas pensé comme ça au départ, c'est quelque chose qui est empirique, qui est quand même assez spontané, qui se met en place, d'une reconstitution du familier en transit, parce que le familier est rassurant.
Et oui, ça fait du bien. Ça fait du bien de se retrouver dans quelque chose qui rappelle les temps du départ, avant le départ, bien sûr. Et donc, la problématique du logement, c'est aussi à travers ce qu'on disait tout à l'heure, d'ailleurs, c'est de faire en sorte que ce soit le plus court possible pour pouvoir écouler le plus rapidement possible. C'est là qu'interviennent les compagnies maritimes, en particulier la CGTM au Havre, par exemple.
Oui, alors la question du temps est fondamentale parce qu'il y a aussi l'argent derrière. L'étape de Marseille et l'étape du Havre sont très très différentes. À Marseille, il y a assez peu de transit qui soit inférieur à une semaine. Les migrants le savent, donc en général ils ont prévu à la fois un lieu pour loger ou la somme qui va avec. En cas de retard du bateau qui doit partir, ils sont indemnisés par les agences d'émigration qui vendent les billets. Il y a la loi qui protège quand même. Au Havre, les transits sont beaucoup plus rapides, ils durent maximum un jour ou deux, mais rarement plus, voire quelques heures uniquement. Donc les conditions sont quand même extrêmement différentes. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que le voyage ne s'effectue pas que d'est en ouest. C'est-à-dire qu'on a énormément de transits aussi dans l'autre sens, puisque il y a des retours, et des circulations, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et en particulier, j'ouvre le livre avec un fait divers qui se passe à Marseille, que je vais laisser les lecteurs découvrir, mais qui est une affaire de meurtre assez spectaculaire. Et la victime rentrait d'Amérique latine, et c'était son sixième voyage, son sixième passage à Marseille. Donc cette personne qui est la victime de ce meurtre, qui s'appelle, son prénom c'est Loulina, elle représente très bien cette figure à laquelle on ne pense pas forcément, mais que le migrant peut être d'abord une migrante, assez âgé pour l'époque, hein, quand même, une soixantaine d'années, et de retour. Pas forcément un jeune homme qui part, hein, une femme un peu âgée qui rentre. Hein. Donc c'est une figure un peu différente que j'ai trouvé intéressante de mettre en avant comme ça.
Oui, de toute façon, là, on retrouve ce qui est un peu classique dans l'histoire d'immigration, c'est-à-dire d'immigration et des circulations entre les différents pôles de la diaspora. C'est quelque chose qui existe depuis l'Antiquité.
Oui, qui existe depuis très très longtemps, mais qui n'a pas été toujours mis en avant.
Voilà, tout à fait. Alors, deuxième élément intéressant dans ce transit, c'est ce qui empêche, c'est pas tout à fait ce qui empêche, mais ce qui pose un problème souvent aux migrants, c'est le contrôle, les contrôles, plus exactement, qui sont toujours présents, en continu, finalement.
Alors, votre hésitation est intéressante, parce qu'effectivement, à l'époque, ils sont contrôlés, mais, et j'insiste beaucoup, ils passent, la plupart. Ce qui est par rapport à aujourd'hui, évidemment, un miroir un peu inversé, du moins si on considère la partie la plus nécessiteuse des migrants aujourd'hui. Puisque finalement, aujourd'hui, un migrant fortuné qui a un visa, il passe aussi. Hein. Bon. Alors, ce chapitre sur le contrôle, il est fondamental. Il met en jeu, en fait, la notion de dispositif. C'est-à-dire quelque chose de complexe qui relève à la fois de textes administratifs, de dispositifs architecturaux, de construction. Où est-ce qu'on fait passer les contrôles? Comment on les fait passer? De découvertes scientifiques, parce qu'il y a une dimension médicale très forte dans ces contrôles à cette époque. De décisions politiques. Donc c'est tout un ensemble de choses qui font qu'il y a effectivement contrôle sur cette population. Alors, qu'est-ce que ça veut dire contrôle? Je vais donner un exemple très simple. Donc, la fin du 19e siècle est un moment où il y a encore de grandes épidémies, notamment au Moyen-Orient. Et c'est un moment de connexion de plus en plus forte. Hein. Il y a des mobilités humaines à l'échelle de la planète qui font qu'il y a des mobilités virales, microbiennes également. Et un pays comme les États-Unis prend des dispositions, notamment par la loi de 1891, assez ferme sur le contrôle à l'entrée sur son territoire pour essayer de ne pas faire entrer ces épidémies sur le territoire américain. C'est l'Immigration Act de 1891. Cette simple disposition politique, législative américaine, qui prévoit aussi que si quelqu'un est rejeté à l'entrée des États-Unis en raison de son état sanitaire, la compagnie maritime qui l'a acheminé devra le ramener à ses frais dans le port de départ. Cette simple disposition produit un effet domino qui va faire naître des contrôles dans les ports de départ. Puisque les compagnies maritimes, ne voulant pas perdre d'argent, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont anticiper le contrôle sanitaire. Donc là, on se retrouve avec des contrôles sanitaires qui n'étaient pas obligatoires de mettre en place, mais qui vont être mis en place en France, en l'occurrence à Marseille, au Havre, mais dans d'autres ports aussi, par ces compagnies maritimes, parce qu'elles ne veulent pas payer pour le retour de gens qui seraient éventuellement refoulés. La même chose se passe en France. Pour la moindre épidémie ou le moindre doute sur ces bateaux qui arrivent de Méditerranée orientale, on exige des contrôles dans les ports de départ. Donc, ce qui est très intéressant de voir ici, et ça nous parle immédiatement, et d'ailleurs moi j'ai écrit ce chapitre pendant le confinement, donc c'était absolument incroyable comme phénomène de concordance des temps, ce qu'on voit se mettre en place ici, tout simplement, c'est la mondialisation d'un contrôle sur l'état sanitaire des populations. C'est une dilatation de la frontière, c'est-à-dire que les gens passent des contrôles, donc il y a des moments où ils passent des contrôles, mais finalement, ils ne font que se mouvoir à l'intérieur d'une seule et même immense frontière qui va en gros de leur port de départ au port d'arrivée, et ils n'en sont délivrés que lorsqu'ils franchissent la porte de sortie d'Ellis Island, en l'occurrence pour les États-Unis, mais il y a d'autres stations sanitaires ailleurs dans les pays d'Amérique. Le contrôle sanitaire, c'est l'essentiel du contrôle. Après, il y a aussi des contrôles sur les papiers. Et là, il y a aussi quelque chose de très intéressant qui se passe. C'est que l'Empire ottoman interdit officiellement l'émigration jusqu'à la fin du 19e siècle. Mais en réalité, il y a une sorte de, pas de tolérance, mais on ferme les yeux sur l'obtention par bakchiche de papiers, de passeports. Donc il y a tout un système comme ça, un petit peu de trafic de passeports. Alors pourquoi l'Empire ottoman fait ça ? Parce que la porte, la sublime porte, considère que ces migrants ne donnent pas une bonne image de l'Empire ottoman à l'étranger. Sont des miséreux, hein, pour la plupart d'entre eux, et donc souhaitent ne pas faire se répandre la population outre mesure. Bon, malgré cette interdiction, donc, ils partent, ils arrivent à se procurer des papiers, ils sont contrôlés, mais ce qu'on remarque, c'est que, pour la plupart, ils arrivent à passer. Et en fait, moi, c'est ça qui m'a fasciné dans l'écriture de chapitres, c'est que, là encore, hein, il y a des facteurs qui facilitent le passage ou qui, au contraire, le rendent plus difficile. Si on a de l'argent, déjà, on voyage en première classe, donc on n'est pas contrôlé ou quasiment pas. Si on a un état sanitaire qui est bon, on n'a pas de problème. Même si on subit les contrôles, on n'a pas de problème. Si on a des papiers, pareil, pas de problème, même si on subit les contrôles. Et ce qui m'a fasciné, c'est l'existence d'une époque, finalement, où il existe des frontières, il existe des contrôles, et il y a des gens qui restent coincés là-dedans. Hein. Il ne faut pas non plus dire ce qui n'est pas vrai. Mais 95% des gens vont passer. Voilà. Contrôle,
c'est pas la même nature. C'est pas la même nature qu'aujourd'hui.
C'est différent.
C'est très différent.
Alors, il y a, et je termine le chapitre là-dessus, parce qu'il y a quand même ceux qui ne passent pas. Il y a quand même des phénomènes de rétention, de NAS, comme aujourd'hui. Il y a ceux qui n'ont plus de papier, il y a ceux qui sont trop malades, il y a ceux qui sont trop pauvres. Il y a ceux qui vont essayer de contourner les contrôles et qui ne vont pas y arriver. Donc, il y a toutes sortes d'histoires, assez tragiques d'ailleurs, mais qui ne sont absolument pas majoritaires.
Voilà, c'est ça. C'est pas dominant.
C'est pas dominant.
Alors qu'aujourd'hui, ça l'est plutôt. Enfin, c'est pas les contrôles sanitaires, c'est les autres contrôles.
Ça l'est pas pour tout le monde. Je vous rappelle qu'on a accueilli les réfugiés ukrainiens à bras ouverts.
Bien sûr.
Ça l'est pas pour tout le monde.
Bien sûr. C'est d'autres considérations. On va faire une deuxième pause musicale, toujours avec ce concert qui s'est déroulé en 2015 à le Festival de l'Imaginaire, à la Maison des Cultures du Monde à Paris. Alors, ces contrôles, finalement, existent et filtrent, mais on va dire moyennement, les gens qui passent, peut-être moins qu'aujourd'hui, restent quand même après sur place le problème des escrocs. Parce que, bien sûr, c'est une population qui est fragile, qui est un peu désorientée, qui est toujours en attente de pouvoir partir assez vite. Et ils sont un peu pris par des escrocs qui essayent de tirer profit justement de ce désarroi.
Oui, pas si fragile et désorienté que ça, mais bon, je vais y revenir après. Alors ça, c'est la première chose qu'on voit dans les archives. C'est cette masse absolument incroyable, notamment à Marseille, d'arnaques en tout genre, qui se déploient donc à l'encontre des migrants. Cette population d'escrocs... C'est les passeurs d'aujourd'hui, hein, finalement.
C'est pareil. Ouais.
On les appelle pisteurs dans les archives, mais c'est une réalité qu'on connaît tous. Hein, c'est-à-dire que quand on arrive dans une ville ou dans un endroit qu'on ne connaît pas, surtout dans certains endroits de la planète, on vous propose des services divers et variés qui parfois sont tenus, à des prix qui parfois sont tenus, et puis parfois ça dérape. Hein, parfois le service n'existe pas, le prix est complètement surfacturé, et là c'est l'arnaque. Alors ça, c'est un moment extrêmement intéressant, d'abord d'un point de vue, socio-anthropologique. C'est extrêmement intéressant dans la sociologie de l'interaction, c'est-à-dire qui dupe qui. quel rôle jouent les gens. Et puis surtout, cette population d'escrocs, d'arnaqueurs, de pisteurs, où il y a des femmes d'ailleurs, il y a quelques femmes, elle est absolument fascinante à étudier, parce que c'est un monde d'abord pléthorique, il y a énormément d'individus. Très rarement des individus qu'on peut suivre sur la longue durée. On a des gens qui passent comme ça dans les archives et puis qui disparaissent. C'est très rare d'avoir des figures qui restent. Il y en a quelques-uns, mais pas énormément, finalement. C'est ce que j'ai appelé des figures grises, des gens qui sont entre deux mondes, à la fois d'ailleurs d'un point de vue culturel et puis social. Souvent, ce sont d'anciens migrants eux-mêmes qui, arrivés à Marseille, se sont retrouvés coincés pour une raison ou une autre, pas d'argent, d'autres opportunités, etc. Et ont décidé pour un temps, ou ont la nécessité pour un temps, de gagner leur vie comme ça. De rendre des services, comme ils disent, à leurs compatriotes, moyennant de l'argent. Alors il y a une hiérarchie aussi dans ce monde, c'est-à-dire il y a les petites mains, les petits rabatteurs sur les quais, les petits rabatteurs vers les magasins, et puis on monte progressivement dans la hiérarchie. Donc il y a ceux qui les embauchent, ceux qui sont en lien direct avec les agences d'émigration, donc là c'est quand même des figures un peu plus importantes qui rabattent les clients tout simplement vers ceux qui vendent les billets de bateau ou vers les hôtels. Donc il y a une hiérarchie d'escrocs, il y a ceux qui sont escrocs temporairement, qui sont parfois expulsés du territoire, que cette expulsion soit mise à exécution ou pas, qu'on voit revenir après un séjour plus ou moins long dans un autre pays, qui sont en cheville avec d'autres escrocs dans d'autres ports. Enfin, c'est absolument fascinant ce qui se passe. Alors, il y a tout type d'arnaque, mais qui consiste essentiellement à vendre des services aux migrants, services dont ils ont souvent besoin, avec des tarifs parfois trop élevés, ou un service qui parfois n'existe pas. Alors, Marseille n'est pas un cas isolé, ça existe au Havre, mais dans une moindre mesure, pour les raisons qu'on a exposées tout à l'heure, et à New York, mais également dans une moindre mesure, parce que le transit est en partie canalisé par Ellis Island et tout le dispositif qu'il y a autour. Donc la grande ville de l'arnaque, et ici je vais enfoncer une porte ouverte, la grande ville de l'arnaque, c'est Marseille, à la fois en raison de la disposition géographique de la ville, de l'espace du transit, de l'espace économique de ces hôtels dans lesquels il se passe plein de choses, de l'impuissance de la police également, qui fait face avec des moyens humains complètement dérisoires à le déploiement d'une économie, alors on peut l'appeler comme on veut, parallèle, souterraine, voilà, une économie en tout cas, qui est assez, assez importante. Parce que à Marseille, c'est quand même 20 000 Syriens qui passent par an dans les années 1910. Donc je vous laisse imaginer quand même la manne économique qu'il y a à la clé. Ouais.
Ouais, c'est déjà pas mal. Et donc, la police n'a pas les moyens. Les États, est-ce qu'ils font quelque chose? Il y a des textes législatifs qui sont pris.
Alors, tout à fait. Donc, notamment en France, dès le milieu du 19e siècle, il y a deux grands textes en 1855 et 1861 sur la protection des émigrants. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la France est un pays avec une façade atlantique très importante, qui est traversée par des flux migratoires, pas uniquement en provenance de Méditerranée, mais aussi en provenance d'Europe de l'Est. Donc, un aspect commercial déterminant. Et sous le Second Empire, la volonté de l'État, c'est non pas d'enrayer ces flux, mais au contraire de les encourager pour gagner de l'argent. Donc là aussi, on est dans une logique qui est complètement différente d'aujourd'hui. Et donc, il faut protéger ces migrants, parce que sinon, ils vont partir d'un autre pays. Donc les lois de 55 et 61 créent deux choses très importantes. Les commissariats des ports et de l'émigration, donc qui sont sous autorité directement du ministère de l'Intérieur. Dans toutes les grandes villes portuaires en France, va être créé un commissariat spécialisé dans la surveillance des ports, des chemins de fer et de l'émigration. Celui de Marseille l'est en 1868. Deuxième disposition très importante, la protection de l'émigrant en lui-même, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas être arnaqué, qu'il soit indemnisé en cas de retard du bateau. Et ce statut de l'émigrant va aussi avec la création des agences d'émigration, qui sont les seules habilitées par le gouvernement à vendre les billets pour les traverser. Donc il y a toute une disposition législative qui est mise en place en France au milieu du 19e siècle. De la même manière, aux États-Unis, la création d'abord de la première station d'émigration à l'arrivée à New York, qui est Castle Garden, qui est créée à peu près au même moment dans les années 1850, et puis de celle qu'on connaît tous, Ellis Island, qui est ouverte en 1892, relève de la même logique. Protéger celui qui arrive. Le protéger, éloigner tous ces arnaqueurs, tous ces pisteurs, tous ces passeurs, lui donner un statut, le protéger, le compter, établir des statistiques et le contrôler. Hein, c'est une même logique. Et ça, c'est intéressant. Alors, dans d'autres pays européens, ça se passe de la même manière, pas forcément à la même époque, mais disons, en gros, entre les années 1850 et la Première Guerre mondiale, ce sont des lois qui vont se mettre en place un petit peu partout, qui visent à assurer à la fois une protection et un contrôle des populations mobiles.
Ce qui est vraiment intéressant, c'est le saut dans le temps qu'on peut faire entre notre période d'aujourd'hui, puis cette période du 19e, où finalement, c'est quasiment encouragé, la migration.
Alors,
parce que ça rapporte.
La migration, pas forcément, on l'a vu du côté ottoman, mais en France, ce qui est encouragé, c'est... c'est que du bénéfice, j'allais dire, pour l'État. C'est le transit, le départ, donc la vente de billets, les nuitées d'hôtel, la vente de billets de train. Et finalement, l'aspect très florissant de l'économie des compagnies maritimes. C'est ça, en fait, qui est vu. Et là aussi, vous touchez du doigt quelque chose de très important, c'est que la France, contrairement aux États-Unis, c'est un pays de transit pour cette population. Ce n'est pas un pays d'installation, très peu. Donc il y a une vision qui n'est pas du tout négative sur ce phénomène. Aux États-Unis, on va dire, les choses sont un peu plus mitigées. Alors, pour revenir à la question sur les moyens de la police, alors effectivement, le commissariat des ports, des chemins de fer et de l'émigration est créé à Marseille en 1868. Il a une existence un petit peu erratique. Disons qu'il est vraiment en place à partir des années 1870. Le bureau est à Place de la Joliette. Donc le bureau du commissaire est sur la Place de la Joliette. Mais les effectifs sont dérisoires. C'est quelques... je crois que c'est même pas 10 agents. Donc, quand il s'agit de contrôler tous les départs et toutes les arrivées de bateaux, de contrôler la gare, de recevoir toutes les plaintes de tous les migrants, etc. Et il y a énormément d'archives, justement, sur ce manque d'effectifs qui est chronique, hein, à Marseille, de toute manière, dans la police et dans cette police qui dépend de la sûreté.
On fait encore une pause musicale avec toujours la même source, puisque c'était une source qui est assez longue, assez importante. Et donc, on s'arrête un petit moment. Alors après les escrocs, finalement, ces migrants trouvent quand même quelques, quelques personnes, quelques institutions qui les aident justement à passer outre à ces escrocs, essayer de les éviter peut-être, mais c'est pas sûr.
En premier lieu, ce qui les aide, c'est eux-mêmes. C'est une volonté de ma part et aussi une idée qui se développe énormément actuellement dans les sciences sociales, d'essayer de restituer aux individus leur capacité d'action, et notamment en histoire des migrations, de ne pas voir les gens uniquement comme des victimes. Je crois que c'est très important, même aujourd'hui. On a tendance à décrire toujours les migrants comme une pauvre victime. Ils sont victimes de choses, certes, mais ils ont aussi des capacités d'action, une intelligence, des stratégies qui leur permettent de faire face. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que ce qui est très intéressant ici de constater, c'est que le transit n'est pas une aventure qu'on tente au hasard, comme la migration. C'est-à-dire que les gens partent avec des renseignements. Ils partent avec des informations, ils partent avec de l'argent et des ressources multiples. Alors ces informations et cette expérience leur sont transmises d'une part par d'autres migrants, c'est-à-dire que c'est là que tout le phénomène de circulation prend son sens et son intérêt, c'est que lorsqu'on revient, vous imaginez, d'une aventure telle que avoir traversé une mer, un océan, avoir vécu aux États-Unis ou ailleurs, et quand on revient dans sa famille, on raconte des choses, c'est inévitable. Et on raconte le voyage, comment on s'est débrouillé, à qui on a fait appel. Il y a même des petites cartes de visite qui sont données, des indications extrêmement précises, des adresses, etc. Bon. Ça, c'est la première chose. Le récit se transmet aussi par la correspondance. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi, c'est que, évidemment, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas Internet, mais il y a des lettres, il y a des centaines de milliers de lettres qui sont échangées entre tous les membres de cette diaspora, de ces familles, dans lesquelles on donne aussi des indications. Tu vas passer par là, tu vas t'adresser à telle personne, tu vas dormir chez le cousin truc, tu vas prendre un billet, attention à telle agence, il surfacture, etc., etc. La presse fournit aussi des informations. Il y a des journaux qui sont publiés et qui sont lus ou dont les informations sont retranscrites dans les correspondances. Bref, il y a énormément de... Un voyage, ça se prépare. Un voyage comme celui-là, ça se prépare. Les gens font des économies, les gens empruntent de l'argent ou ils hypothèquent des terres. Ils préparent de la nourriture, ils préparent des vêtements soigneusement. Tout ça est pensé et ils réunissent des informations. Donc ça, c'est vraiment une chose qu'il faut avoir à l'idée, c'est que la migration, c'est aussi une expérience, un savoir-faire qu'on voit à l'œuvre. Alors, il faut savoir débusquer le piège de l'archive, c'est-à-dire il faut savoir passer au-delà de uniquement l'archive qui vous dit « ça se passe mal, c'est des victimes ». Il faut essayer de voir autre chose, parce que c'est une évidence qu'il y a autre chose, mais ça n'est pas immédiatement accessible dans les archives. La deuxième chose qui est évidente, c'est qu'il y a des personnes sur place. Il y a des réseaux, forcément. Sinon, ça sert à rien d'emprunter toujours le même chemin. Pourquoi les gens empruntent toujours le même chemin ? Pourquoi ils vont toujours dans le même port ? Pourquoi ils vont toujours dans les mêmes villes ? Parce qu'ils ont des informations et il y a des gens qui vont les aider. C'est soit des tenanciers d'hôtels, soit... Et c'est là qu'on retrouve les pisteurs-passeurs, qui sont vraiment des figures très intéressantes, parce que parfois, ils rendent réellement service. Sans pisteur, il n'y a pas de migration. Donc, parfois, ce sont des arnaqueurs, mais la limite entre l'arnaque et le service, elle est souvent floue. Donc, il y a des personnes qu'ils connaissent, auxquelles ils vont s'adresser, souvent plusieurs fois, ou auxquelles ils vont adresser de la famille, avec des lettres de recommandation. Il y a tout simplement des amis ou de la famille. Et aux États-Unis, mais à Marseille aussi d'ailleurs, il y a toute la catégorie des interprètes. Qui est extrêmement intéressante, qui sont des gens d'anciens migrants, souvent eux-mêmes, qui manient parfaitement, évidemment, les langues, et qui aident beaucoup, soit à les déposer plainte à la police, soit à passer les contrôles. Des figures références comme ça, notamment, on a un cas extrêmement célèbre qui est Najib Arbili, qui a travaillé à Ellis Island, qui est aussi le fondateur d'un des principaux journaux en langue arabe publié aux États-Unis, qui s'appelle Kokab America, et qui a été une figure essentielle, vraiment, de référence. Et les témoins interrogés par Alix Anaf se rappellent de lui, du rôle très rassurant qu'il avait à Ellis Island, quelqu'un qui parle votre langue dans ce brouhaha qui est le grand hall d'Ellis Island, si vous y avez été, vous voyez ce à quoi je fais allusion, est extrêmement est central.
Oui, bien sûr. Heureusement, il y a toute la diaspora. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on retrouve à peu près le même genre de préparation de la migration, hein, avec les adresses, avec les courriers. Et maintenant, il y a le portable.
Même genre de préparation, avec des routes qui se réinventent beaucoup en raison des contrôles entravés. Donc, il y a sans cesse des nouvelles tactiques pour essayer de passer. Et évidemment, la connexion. L'ultra-connexion. Aujourd'hui, le migrant, s'il n'a pas un smartphone et une carte SIM, il est très désavantagé.
Oui, c'est sûr. Alors, pour terminer, Céline Ragnard, j'aimerais que vous me disiez deux mots de votre conclusion sur le panier de Loulina Omaïr.
Alors, Loulina, c'est la victime du meurtre qui ouvre le livre. C'est une femme qui me touche énormément. Je crois que c'est très important de se laisser toucher par les archives aussi. Et cette archive, qui est une archive de police, est tout à fait exceptionnelle parce que c'est très rare qu'on ait la description du bagage d'un migrant. Or, la description de ce bagage est pour moi tout à fait fascinante. Donc c'est une liste assez simple qui est dressée par un officier de police. Donc dans ce panier, qui est un petit panier, il y a une couverture, un passeport, quelques papiers officiels, 2-3 photographies, des ustensiles de cuisine, quelques vêtements, une petite broche, un objet pieux et pas d'argent. L'enquête de police à l'époque n'accorde absolument aucun intérêt à ce panier. Moi, j'y accorde beaucoup d'intérêt. On ne fait pas la même enquête. Moi, je fais l'enquête de l'historien. Et ce panier, il est pour moi révélateur de... C'est une sorte de précipité de l'expérience migratoire et du transit, parce qu'il y a à la fois des objets qui relèvent du contrôle, donc le passeport, il y a des papiers officiels, des objets qui relèvent de l'habité, hein, donc la couverture, les ustensiles de cuisine, pour essayer de faire sien n'importe quel espace. Des objets qui relèvent de l'intime, de la culture, hein, donc notamment tous les objets religieux, et qui relèvent aussi d'un certain savoir-faire de la migration, notamment les petites broches, les petits objets, parce qu'elle vendait de la mercerie et des objets, des bijoux fantaisie. Et des objets qui montrent que quand on est un migrant, on n'est pas coupé de sa région d'origine. Il y a de la correspondance, il y a une photographie. Donc... Et le fait qu'il n'y ait pas d'argent est aussi très très symbolique, parce qu'en fait, elle a eu l'intelligence de, évidemment, ne pas laisser l'argent dans sa valise. Bon, c'est ça qui a fini par lui coûter la vie, mais disons que c'était vraiment comme une métaphore de tout ce qu'on peut trouver dans... ce livre et dans ce que j'ai essayé de décrire, qui est cette expérience du transit, c'est-à-dire à la fois ces éléments factuels, le contrôle extrêmement objectif, etc., et puis tout ce qui relève de la façon dont ces gens se débrouillent, leur talent, leur intelligence migratoire finalement. Et voilà, ça m'a énormément intéressé, ému, tout ce que vous voulez. Donc j'ai fait la conclusion du livre à partir de cette archive.
Merci beaucoup pour cette conclusion qui nous transmet également votre émotion.
Merci
donc d'avoir accepté mon invitation et peut-être à la prochaine, j'espère.
Il faut écrire un autre livre.
Il faut écrire un autre livre. Bah, écoutez, hein, vous savez, comme je vous l'ai déjà dit, vous avez votre ronde serviette à l'émission.
Merci.
Pour nos auditeurs qui voudraient plus d'infos, je rappelle que Céline Ragnard vient de publier un ouvrage qui s'appelle En transit, les Syriens à Beyrouth, Marseille, Le Havre, New York, 1880-1914, aux éditions Anna Moza. C'est ce livre qui nous a servi un peu de guide dans cette émission, et vous y trouverez beaucoup de témoignages extrêmement intéressants.
Au revoir aux éditeurs et à bientôt.
À bientôt.